Testament. Nombre, chapitre 22, alors la lecture va être un peu longue, du verset 1 au verset 22. Nombre 22, 1 à 22. En tout cas, à mon avis, les jeunes peuvent rester, hein. Message aussi que les jeunes aimeraient bien entendre, en tout cas, hein. Les ados, voilà, tout le monde. Nombre 22, 1 à 22. Alors, j'invite notre sœur Rita pour nous faire cette lecture. Merci Rita. Nombre 22, 1 à 22.
Les enfants d'Israël partirent. Ils campèrent dans les plaines de Moab, au Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayant face à un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian : cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, le chasserai-je du pays, car il sait que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le donner. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vient à Balaam et dit : qui sont ces hommes étranges que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu : Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire : voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam : tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak : allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les frères de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent : ainsi parle Balak, fils de Tzippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak : quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petit, ni prendre contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit : puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui.
Amen. Amen. Merci. Merci pour la lecture. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous aimons ta parole, nous la chérissons. C'est cette parole que nous voulons entendre maintenant. Ouvre nos cœurs par ton esprit, fais-nous entendre ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balaam est un prophète de l'Éternel. Alors, certains pensent qu'il servait un dieu étranger, mais en tout cas, le texte le montre qu'il était bien au service du Seigneur. Et d'ailleurs, son ministère avait, en tant que prophète, avait une réputation, de sorte que Balak, roi de Moab et de Madian, avait entendu parler de lui. Alors, le peuple de Moab et de Madian était donc terrifié, justement parce que la plus puissante armée du monde de l'époque, l'armée d'Égypte, venait, comme on dit, de mordre la poussière, de subir une cuisante défaite devant Israël, qui maintenant campait dans les plaines de Moab. Alors, son raisonnement était simple. Le raisonnement du roi Balak était simple. Si l'armée égyptienne a été détruite si facilement, mais il est probable qu'ils subissent le même sort. La peur, on pourrait le dire, était donc contagieuse au point d'atteindre aussi le palais royal. Bon, ce n'était pas seulement le roi Balak, mais tous les rois environnants, on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure, tremblaient. Alors, la démarche du roi Balak est basée sur la chose suivante. Celui qui est béni par le prophète Balaam était vraiment béni. Et celui qui est maudit aussi par le prophète Balaam était réellement maudit. Vous voyez que Balak comprend que avant de combattre physiquement, il faut d'abord que les choses se passent dans un point de vue spirituel. Le combat, il commence d'abord spirituellement avant de se manifester physiquement. Et l'adversité, c'est pareil. C'est toujours spirituellement et ensuite physiquement. Il dit, si tu maudis, en ce moment-là, moi, je pourrais attaquer ce peuple avec la chance de combattre, de l'anéantir. Donc, ce roi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une délégation. Une première délégation, en langue diplomatique, on dit qu'il envoie une ambassade composé d'hommes importants et à qui il avait remis une précieuse offrande en faveur du roi, pardon, en faveur du prophète Balaam. Leur mission était de le convaincre de venir avec eux afin de se tenir aux côtés du roi pour maudire Israël depuis les hauts lieux de Moab. Balaam était perplexe. Il leur dit: écoutez, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Verset 8. Frères et sœurs, en analysant bien ce verset, cette réponse de Balaam, vous voyez, on peut constater qu'elle pourrait nous sembler très proche, en tout cas, pour ne pas dire exactement de ce que beaucoup de chrétiens diraient aujourd'hui. Alors écoutez, je vais prier sur ce sujet et je verrai ce que Dieu me dira. Oui, je vais prier pour ce sujet et je verrai ce que Dieu me dira. L'Éternel s'adresse à Balaam et lui demande: mais qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont-ils? Donc, en d'autres termes, pourquoi as-tu besoin de prier à ce sujet? Pourquoi tu connais ma volonté, tu connais la réponse. Pourquoi as-tu besoin de prier à ce sujet? Si tu réalises qui sont ces hommes qui sont venus chez toi, tu n'as même pas besoin de prier à ce sujet. En effet, ces hommes n'ont pas conclu d'alliance avec Dieu. Dieu lui dit, mais ces hommes n'ont pas conclu d'alliance avec moi. Mais il te demande de maudire mon peuple, qui lui est le peuple de l'Alliance. Alors, dit Dieu, Pourquoi? Pourquoi me poses-tu cette question? Tu connais ma réponse. Tu connais ma réponse. Alors, frères et sœurs, c'est un message pour nous. Il y a des sujets pour lesquels, au fond, nous n'avons même pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que nous connaissons la réponse. Nous devrions connaître la volonté de Dieu pour certains sujets avant même de la lui demander. Dans le cas de Balaam, nous pouvons imaginer que la récompense, parce que c'est la parole de sa cupidité, la récompense et l'honneur qui nous sont proposés sont assez importants. Le désir de l'argent et l'honneur a-t-il voyé les yeux de Balaam pour l'empêcher de penser selon la sagesse? Dieu qui est miséricordieux a probablement pensé, bon, d'accord, Balaam, puisque tu n'as pas compris, ou que tu n'as pas voulu comprendre le fond de la situation, je vais te faire connaître ma volonté de façon claire et plus directe. Alors, Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Maintenant, est-ce que c'est clair? Alors, frères et sœurs, j'ai toujours pensé que lorsque Dieu a parlé, en tout cas, c'est clair et précis. Par contre, nous compliquons souvent ce que Dieu a dit. Nous aimons raisonner avec la parole de Dieu. Nous aimons faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Balaam, bon, obéit. Et le matin suivant, il renvoie les émissaires du roi en leur disant exactement ceci. Allez dans votre pays. Suivez bien, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse. Vous voyez ce verbe? L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. L'Éternel refuse. Regardez, même s'il obéit, mais le choix de ses mots laisse clairement apparaître une certaine résistance de sa part, notamment le mot refuser. Cela fait penser à la situation suivante. Une jeune adolescente est invitée à une soirée par un jeune homme très populaire, mais dont la réputation est par ailleurs très mauvaise. La jeune fille est très emballée par la perspective de sortir avec lui et elle demande de manière très enthousiaste à son père de lui accorder la permission. Et parce qu'il l'aime et se soucie de sa fille, le père refuse gentiment. Elle est déçue et dit à ce jeune homme, je ne peux pas venir parce que mes parents ne veulent pas. On peut lire entre les lignes et entendre dans sa réponse, mes parents ont dit non, mais moi j'aurais dit oui. Ce sont ses parents qui n'ont pas voulu. Elle voulait sortir et elle voit le refus de ses parents comme une restriction, une entrave à sa liberté, comme un obstacle à son désir irraisonnable. Malheureusement, si elle ne change pas sa manière de penser et ne comprend pas la motivation du refus de son père, elle finira par trouver un moyen pour retrouver ce jeune homme et subira les conséquences désastreuses de ses actes et de sa désobéissance. Balaam, bien que prophète, a eu un attrait malsain pour l'argent. La cupidité brûlait dans son cœur. Il aspirait à posséder les meilleures choses de la vie et à jouir de la plus haute influence sociale. Il obéit à Dieu, mais en traînant les pieds, comme on dit. L'obéissance, frères et sœurs, à la parole de Dieu était pour lui une contrainte et non un plaisir. Mais parce qu'elle mettait, la parole de Dieu mettait une barrière entre lui et ce qu'il désirait véritablement au fond de lui. Les anciens de Moab et de Madian retournent vers le roi Balaam et lui font ce rapport. Balaam a refusé de venir avec eux. Cette nouvelle, voyez, ne décourage pas le roi Balak, qui envoie immédiatement des hommes, mais d'un rang encore plus élevé, porteur de plus d'argent encore. Pourquoi Balak a-t-il agi ainsi? Nous pouvons penser que ce sont les puissances démoniaques ou sataniques qui pousse Balak. Qu'est-ce qui peut nous permettre de le dire? La Bible explique ceci dans Jacques chapitre 1 au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous pouvons noter deux choses. Premièrement, tous nos désirs sont opposés à la volonté, tous nos désirs qui sont opposés à la volonté de Dieu sont de l'ordre de la convoitise. Donc c'est de l'idolâtrie, nous dit la Bible. Deuxièmement, l'ennemi joue son rôle en attirant. Mais notez bien que personne ne peut être attiré par quelque chose qu'il ne désire pas. Non. Si l'on offrait de l'extasie, excusez-moi, à la plupart des membres de cette église, je sais qu'ils n'hésiteraient pas dans leur refus. Mais pour la simple raison qu'ils n'en ont aucun désir pour cela. Vous ne pouvez pas être attiré par une chose que vous ne désirez pas, que vous n'enviez pas. Mais vous êtes attiré, par contre, par les désirs qui n'ont pas été crucifiés à Golgotha, des désirs que vous n'avez pas placés à la croix. Nous sommes attirés par des désirs que nous convoitons, ou ce que nous désirons avec avidité. L'ennemi savait que ce prophète avait un faible pour l'argent et les honneurs, et il poussa en quelque sorte le roi à lui en proposer encore davantage. Ces nouveaux envoyés avaient des moyens illimités pour faire venir Balaam. Ils pouvaient lui offrir ce que Balak, le roi, possédait. Ils pouvaient dire ceci à Balaam de la part du roi: je ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu me diras. Quelle offre! Frères et sœurs, c'est une chose que de se voir offrir ce que ton voisin d'à côté possède, mais c'est aussi une autre chose que de se voir offrir toutes les richesses qu'un roi possède. Surtout si votre faiblesse se situe dans les domaines où ce roi possède les meilleurs arguments. Écoutez la réponse de Balaam. Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Alors, on pourrait être impressionné par l'obéissance de Balaam. Pourtant, encore cette fois, le choix de ces mots marque qu'il se sent limité par les paroles de Dieu, par les paroles du Seigneur, contre son propre désir. Balaam sait ce que bien de personnes qui passent les portes des églises savent. Le jugement attend effectivement ceux qui désobéissent, mais volontairement à la parole de Dieu. Volontairement. Pourtant, le fait de savoir ces choses ne nous garde pas toujours du danger, car si nous ne pouvons pas avoir ce que nous combattons d'une manière, dans la volonté de Dieu, nous pouvons continuer à le rechercher pour enfin trouver un moyen à l'intérieur même des paramètres de la volonté de Dieu. Voyez, pour mieux comprendre, examinons ce que Balaam dit. Il dit: maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira. Que dit Balaam? Au fond, il dit qu'il veut savoir ce que l'Éternel lui dira encore. En fait, il pense que Dieu va changer d'avis, mais parce que le roi lui a proposé, ce que le roi lui a proposé est encore plus important. Ah oui, quand il va changer d'avis? Il croit que lorsque Dieu lui a dit « ne va pas avec eux », c'était en fait pour, comme on dit, faire monter les enchères. Pour une première fois, non, non, ne va pas. Attends la deuxième fois qu'il te proposera un peu plus. Et là, tu pourras partir. Voilà ce qu'il pense. Alors, pourquoi il a encore besoin de prier à ce sujet? Il essaie de trouver un moyen d'obtenir ce qu'il veut, lui. Son désir a pris le pas sur la raison. Ce n'est pas différent de la jeune fille qui harcèle son père pour pouvoir sortir avec le jeune homme très populaire. Balaam est obstiné et il ne veut pas obéir avec joie au désir de Dieu, mais parce que le désir de Dieu combat son propre désir cupide. Il ne veut pas obéir, mais parce que le désir de Dieu s'oppose à son désir cupide. On devrait plutôt dire que le désir de Dieu combat son cœur idolâtre. Car la Bible dit que lorsque tu es obstiné, c'est une idolâtrie. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. L'obstination est comme une idolâtrie. Écoutons la réponse que Dieu adresse à Balaam au verset 20. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, maintenant lève-toi. Lève-toi, va avec eux. Va avec eux. Tu feras ce que je te dirai. Ou tu exécuteras la parole que je te dirai. Les émissaires du roi, ayant été invités à rester pour la nuit, ils espèrent que Balaam ira avec eux le lendemain matin. Dieu dit, en fait, à son prophète, « Ces hommes vont t'appeler, va avec eux, mais ne prononce que les paroles que je t'indiquerai. » Remarquez bien que le texte ne dit pas « Le diable est venu vers Balaam pendant la nuit et lui a dit « Lève-toi et va avec eux. » Non, il ne dit pas non plus un esprit de séduction est venu vers Balaam cette nuit-là et lui a parlé. Non. À la lumière de ce que Balaam dit, on pourrait penser que Dieu a refusé pour la première fois pour faire monter les enchères, comme j'ai dit. Puisque maintenant, c'est Dieu qui lui dit, bon, maintenant, vas-y. Donc, Balaam a maintenant une parole de l'Éternel pour accompagner, pour aller avec les émissaires de Balaam. Le matin suivant, il se lève de bonne heure et agit selon les instructions reçues de Dieu la nuit précédente. Mais voilà ce qui arrive. Balaam se leva le matin et partit avec les chefs de Moab. Voilà que Dieu s'enflamma contre Balaam, alors que Balaam est en train de faire ce que Dieu lui a dit simplement de faire. Mais nous savons que, frères et sœurs, Dieu n'est pas schizophrène. Comment expliquer cette situation ? Nous trouvons la réponse dans les paroles de l'Éternel adressées à Ézéchiel, au chapitre 14, au verset 4. Le Seigneur dit que lorsque son peuple vient à lui avec déjà de la cupidité dans son cœur, moi, l'Éternel, je lui répondrai en fonction de la multitude de ses idoles. Tu viens avec moi selon les mauvaises pensées qui sont dans ton cœur, je te répondrai en fonction de ces mauvaises pensées. La version top dit, quand il viendra, je lui répondrai en fonction du nombre de ses idoles. Nous pourrions le dire de la manière suivante, moi l'Éternel, je lui répondrai en fonction des désirs cupides de son cœur. Beaucoup de personnes dans les églises ne savent ni ne comprennent cela. Si nous voulons vraiment quelque chose et si nous persévérons dans la convoitise, je dis bien dans la convoitise de ce que nous voulons, alors que Dieu nous a déjà révélé sa volonté à ce sujet, il est très possible qu'il finisse par nous donner ce que nous voulons. Il va nous le donner, mais même si, pardon, cela est contre sa volonté et qu'il sait que nous serons jugés au final, mais il va nous donner ce que nous avons convoité. Ce que nous voyons là, c'est exactement ce qui s'est produit dans l'histoire du peuple d'Israël. Israël voulait un roi. Tout simplement parce que les voisins tout autour avaient des rois. Oubliant que pour lui, le roi était son Dieu. Il voulait un roi. Israël voulait. Le prophète Samuel le fait savoir à l'Éternel. Mais l'Éternel lui montre clairement que ce n'est pas dans sa volonté qu'Israël puisse avoir un roi. Il dit à Samuel, si je leur donne un roi, celui-ci va prendre au peuple les meilleures filles, les meilleurs garçons, les meilleurs champs, les meilleures vignes, et ensuite il va accabler le peuple d'impôts. De son côté, Samuel rapporte les paroles de l'Éternel au peuple, mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, 1 Samuel 8. Remarquez bien que ce n'est pas la voix de l'Éternel que le peuple refuse d'écouter, mais la voix de Samuel. comme dans le cas de Moïse, le peuple va s'en prendre à sa mère en gardant sa propre image de Dieu afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Dieu doit consoler sa mère, son serviteur, et lui dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Finalement, Dieu leur a donné des rois. Et c'est lui qui les a d'ailleurs en plus choisis, comme dans le cas du premier d'entre eux, nommé Saül. Et comme Dieu l'avait annoncé, ces rois ont fini par prendre au peuple les meilleurs fils, les meilleures filles, les meilleures terres, et ils ont instauré un système d'impôts que le peuple devrait supporter. Finalement, l'attitude des rois a conduit le peuple d'Israël à la captivité en Babylone. Mais Dieu n'avait fait que donner au peuple ce qu'il voulait fortement. Ce même peuple avait pour nourriture au départ le meilleur aliment, qu'un homme n'ait jamais consommé sur la terre, dans le désert, la manne. Vous voyez, le prophète Élie en avait mangé que deux gâteaux, frères et sœurs. Et il a été capable de courir, de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Deux gâteaux. Bien-aimés, si Dieu vous donne la manne, plus question de manger tous les jours. Plus question d'ailleurs d'aller faire les courses tous les week-ends. C'est vraiment un aliment énergétique, la manne. Pourtant, Israël n'a cessé de réclamer la viande au point d'exiger de Dieu que Dieu puisse leur en donner. Encore une fois, nous voyons que Dieu leur a donné selon leur désir cupide. En fait, il accomplit même un miracle en leur donnant de la viande, de caille. Mais regardez ce qui s'est produit. C'est le psaume 78 qui nous le dit. Il leur apporte ce qu'ils avaient demandé, mais avant qu'ils aient fini de manger, son jugement est tombé sur eux. Dieu avait répondu selon la cupidité de leur cœur. Nous pouvons multiplier les exemples, mais nous devons savoir que lorsque nous convoitons une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour nous, Dieu risque de nous la donner. Il nous répondra selon les idoles de notre cœur. Et il agira ainsi finalement par sa grâce pour nous attirer à lui, d'après Ézéchiel chapitre 14, versets 4 à 5. Le Seigneur désire ardemment ramener notre cœur. Notre cœur à lui. C'est ce qu'il recherche. Il aspire à être dans une relation d'intimité avec nous. Mais si son désir est que nous ne nous perdions pas, il n'acceptera pas non plus que nous nous manquions de lui. Son cœur est pour ceux qui sont entièrement à lui. C'est pour cela qu'il cherche à reconquérir notre cœur pour que nous soyons libéré de toute cupidité qui est une idolâtrie. Une idole, frères et sœurs, est toute chose que nous plaçons avant Dieu dans notre vie. Une idole, c'est ce que nous aimons le plus, ce que nous chérissons le plus, ce que nous désirons le plus, ce en quoi nous nous confions le plus et ce à quoi nous accordons plus d'attention qu'à Dieu. Une idole. Un chrétien est attiré dans l'idolâtrie lorsqu'il laisse son cœur être saisi par le mécontentement et la recherche de la satisfaction en dehors de la volonté de Dieu pour sa vie. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, pour nous faire connaître sa volonté, c'est toujours clair et précis. Ne compliquons donc pas ce que la parole de Dieu nous dit au risque de nous retrouver à côté de sa volonté, suscitant ainsi sa colère. La prophétie et les autres dons spirituels sont considérés dans la Bible comme des signes d'inspiration, mais pas nécessairement de sainteté ni de bonne conduite envers Dieu. Vous voyez qu'on peut être prophète et avoir un cœur rempli de cupidité. Dieu veut que nos cœurs soit entièrement consacré à lui, afin qu'il accomplisse sa volonté à travers nous. Que Dieu nous délivre de tout esprit de raisonnement devant sa parole, que Dieu nous délivre de tout esprit de cupidité, que Dieu nous délivre de toute convoitise qui est une idolâtrie. Amen. Amen. En réponse à la parole de Dieu, je vous invite à chanter comme une confession de foi. Alors, ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne ».